FM, le midi. La voix est libre. Au FM 93, voici Luc Lavoie.
Salut mon Luc!
Salut Eric.
Écoute, je veux commencer en te parlant de politique américaine parce que le freak show continue au sud de nos frontières. Il y a eu un méga rallye, ou en tout cas, c'était supposé être un méga rallye de Donald Trump. Et là, je regarde ses réseaux sociaux, les réactions américaines. Des républicains spinent que ça a été le plus grand discours de Donald Trump de tous les temps, alors que les démocrates se moquent du fait qu'il y avait des estrades vides. Qu'est-ce que tu en as retenu? L'estrade vide ou le grand discours, ou ni un ni l'autre?
Certainement ni un ni l'autre. Le flop, c'est un immense, gigantesque flop. Qui avait été, comment dire, on avait monté le niveau d'expectative tellement haut, on avait tellement laissé entendre que si, que ça, et que ça viendrait par milliers des États avoisinants, puis ta-ta-ti-ta-ta-ta-ta, les pompiers de Tulsa ont estimé qu'il y avait 6200 personnes, alors que Trump avait parlé de 60 000. Deuxièmement, son discours est probablement le plus mauvais, et c'est pas peu dire, que j'ai jamais entendu de sa part.
Mais ça a duré deux heures, ou une affaire de même, ça finissait plus.
Totalement décousu, allant dans toutes les directions, étant à la limite de la bouffonnerie totale, quand il s'est amusé, tu te souviens quand il avait été, il a parlé à West Point, à l'Académie militaire de West Point, il y a à peu près deux semaines, et quand il avait quitté l'estrade principale pour descendre, il avait semblé avoir beaucoup de difficultés à se tenir.
Ouais.
Puis aussi, pendant son discours, il buvait son verre d'eau à deux mains. Puis là, tout le monde en avait déduit qu'il avait l'air pas bien.
Les démocrates ont fait de la publicité avec ça en montrant Biden qui court avec Obama puis qui a l'air d'un athlète, alors que Trump a l'air d'un vieux qui a de la misère à suivre.
Puis en plus, hein, t'as vu l'image de son retour à la Maison-Blanche après son événement de Tulsa. C'est vraiment une des images les plus dévastatrices depuis qu'il a été élu président, là. Il arrive, il est tard le soir, il tient sa casquette « Make America Great Again » dans une main, puis avec sa cravate dans l'autre. Il a l'air de quelqu'un qui vient de manger à peu près 10 coups de poing sur la gueule. Vraiment, il a l'air totalement défait. Alors, un discours, je te le répète, c'est même pas un discours, c'était comme comment on appellerait ça, non? Une diarrhée verbale.
Mais c'est ça, parce que contrairement à ben d'autres politiciens, il n'y a pas des discours écrits, puis il lit pas ses discours là sur des PowerPoints qui sont devant lui, sur des espèces d'écrans transparents. Lui,
non, il dit n'importe quoi qui passe par la tête.
Lui, il y a des notes, mais il regarde pas vraiment, puis il jase.
Ouais, il jase. Il jase, puis il déconne. Ça déconne. Ça déconne.
Ouais, mais en même temps, ça venait de lui. Là. On peut pas dire que c'était son rédacteur de discours qui a fait une mauvaise job.
C'est clair. Malheureusement, ça venait de lui.
Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de dire que les politiciens sont tous stagés, puis sont tous, c'est quasiment des robots là, qui sont là pour lire des feuilles, puis souvent, puis nous autres, on s'en rend même pas compte parce que c'est un écran de verre, mais eux, ils voient qu'est-ce qu'ils voient des mots, puis ils font juste lire ça. Lui, c'est pas ça pantoute. Là. Lui, il aime pas ça, là.
Non, lui, il s'installe, puis il dit, vous pensez que je suis con? Écoutez-moi, vous allez en avoir la preuve.
Là, ils accusent les démocrates d'avoir comploté parce que, puis il y en a quelques-uns des démocrates qui s'en vantent, parce qu'ils ont mis les jeunes sur TikTok, ces réseaux sociaux, pour réserver des places au rallye de Trump, mais ils sont jamais allés. Évidemment, c'était des démocrates, c'était une campagne qu'ils ont faite pour essayer de faire croire qu'ils allaient remplir les estrades, puis ils sont jamais pointés.
Ouais. Je sais pas s'il y a des preuves de ça. J'ai entendu ça comme toi, j'ai lu ça comme toi. Il n'y a personne encore qui m'a mis devant une preuve de ça. Si c'est vrai qu'ils ont fait ça, c'est un bon coup. Toi et moi, on a déjà fait de l'organisation politique.
Mais on s'en vante pas, puis on s'en rend. Faut pas que tu t'en. À partir du moment où les gens s'en rendent compte, puis que tu t'en vantes, ça marche plus, là.
Éric, t'as déjà fait ça, pacter une ligne ouverte, j'imagine.
Je l'ai jamais dit.
Mais non, mais tu l'as fait.
Ben là, je te le dirai pas, je te dis.
Ben moi je te le dis.
Non, mais c'est sûr que en politique, tous les coups sont bons. T'essayes de tout mettre les chances de ton bord, mais c'est rare que tu te vantes de tes mauvais coups. T'sais, des affaires comme ça, d'habitude, tu fermes ta gueule. Là.
Ben en même temps, il y avait quelque chose d'intimidant pour Trump dans ça puis sa gang. Parce que le problème de Trump à l'heure actuelle, c'est que quand il est devenu président en janvier 2017, tout le monde a fini par se rallier autour de lui. Je parle des républicains puis de cette espèce d'establishment qu'il y avait là.
Ouais.
Mais là, ils tombent comme des mouches, là. Okay? L'establishment de toutes les sortes qui inclut au Parti républicain. N'oublie pas que les pubs, à l'heure actuelle, les plus dévastatrices sont celles qui viennent du groupe qu'on appelle le Lincoln Project, qui est un groupe de républicains qui ne veut plus voir la face de Trump. Alors, tout ce qui est autour de lui est en train de s'effondrer. Il n'y a plus rien pour s'appuyer. Bolton, en plus, il y en a qui disaient qu'il aurait dû sortir son livre plus rapidement. Je parle évidemment du livre du l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump. Par ailleurs, moi, j'ai plutôt l'impression que son timing était absolument parfait. S'il voulait y régler son cas, il ne pouvait pas mieux tomber. Comme ça, il y a la tempête parfaite, t'es là, puis il est arrivé avec ça dans le milieu, puis badang, comprends-tu? Ça a ouvert les vannes, il n'y a plus personne qui essaie maintenant de le défendre, ou à peu près, à part l'espèce de Barbie qu'ils ont mis comme secrétaire de presse, là, mais enfin.
Là, je veux que tu parles aussi du côté des démocrates, parce que là, ils sont beaucoup dans les symboles ces temps-ci, puis la gauche américaine est partie là, sur le racisme systémique. Là, ils ont fait enlever au Congrès les toiles qui représentaient des leaders confédérés. Est-ce que c'est une bonne idée de s'attaquer à des symboles puis de vouloir déboulonner des statues? Parce que là, ils ont commencé avec des leaders qui avaient un passé esclavagiste ou qui avaient supporté de près ou de loin. Mais là, ça continue, ça prend de l'ampleur. Ils sont rendus à Jackson et même à Lincoln. Là.
Ouais, puis ils sont rendus à Teddy Roosevelt aussi.
Teddy Roosevelt,
sur le point de ouais. Teddy Roosevelt, qui était un des très, très grands présidents de l'histoire des États-Unis. C'était un des grands réformateurs.
C'est le New Deal, là.
Teddy Roosevelt.
Non, excuse-moi, j'ai pas pris le bon
Teddy
Roosevelt.
Teddy Roosevelt, c'est le début du 20e siècle. Ça a été, on dit, le président qui a été le premier à comprendre et à assumer pleinement que les États-Unis étaient maintenant une grande, grande puissance et qui a commencé à développer ce qui a été une politique étrangère américaine digne de ce nom.
Puis il y a quoi? C'est quoi qu'on y reproche? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'est quoi son problème? Ah, c'est un raciste, lui aussi.
Bon, ben ils sont tous racistes, hein. Non, moi, ça, je trouve cet exercice-là d'un ridicule, mais d'un ridicule. Je sais pas, mais tu pars comme ça, tu dis, écoute, on va aller dans tous les sites de vestiges romains, là, puis on va enlever toute trace de César, parce que, m'a dit, il était pas fin avec les Gaulois, là, lui.
Okay? Mais là, il y a des gens aujourd'hui qui, on le sait même pas si c'est une joke ou pas, mais ils disent que les pyramides, là, ça a quand même été construit par des esclaves, puis c'est un monument à l'honneur de l'esclavagisme. Faudra enlever ça parce que c'est une honte pour l'humanité.
Il y a une vingtaine d'années, quand les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, eux autres, ils ont fait sauter les statues de ce qu'on appelle de Bamiya, les Bouddhas de Bamiya, qui étaient les géants, qui remontait au début de l'ère, au début de l'an 1000, je crois, non, avant ça, ça rappelle plutôt 300 après Jésus-Christ. Ils ont fait sauter ça. Mais c'est la même chose qu'on est en train de faire. C'est que les talibans trouvaient que ça représentait une façon de concevoir la religion qui était inacceptable. Bang, on les fait sauter. Ils ont essayé de faire sauter le site de Palmyre en Syrie aussi, ouais. L'État islamique, ou enfin l'État islamique.
L'État islamique, oui. Mais c'est alors, ça. C'est la même chose qui est en train de se passer aux États-Unis. Fait que dans le fond, là, parce que eux, là, pendant qu'ils font ça, là, ils enlèvent de la pression sur Trump, là, parce que là, il y a beaucoup d'Américains qui disent ça fait partie de notre histoire. Là. Je donnais l'exemple la semaine passée, mais nous autres, c'est à Québec, là, quand tu te promènes autour des plaines d'Abraham, là, puis j'habite sur une de ces rues-là, il y a des noms de généraux et français et britanniques. Mais tu sais, les généraux britanniques, là, ils ont tué nos ancêtres, là, puis ils sont encore là, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui demande est-ce que la rue Brown, Moncton ou Murray change de nom, là.
Mais non, mais c'est comme. Non, mais quand je dis. Ben, à Montréal, ils l'ont fait, peut-être la rue Hammer.
Ben oui, mais c'est stupide, là.
Carrément stupide, oui, c'est carrément stupide parce que l'histoire, c'est une chose qu'on assume. C'est pas une chose qu'on réécrit à mesure que nos valeurs évoluent. L'histoire, c'est un fait accompli. L'histoire, c'est une chose qu'on regarde avec objectivité puis qu'on dit voici ce que l'histoire nous a enseigné. Pas. Je vais régler mes comptes avec l'histoire. Et en plus, la plus grave erreur qu'on puisse faire, c'est d'appliquer des critères d'aujourd'hui à des situations qui datent d'il y a 150 ans, alors que l'environnement était complètement différent.
Ça n'a rien à voir. Ben oui, c'est ça. Fait que là, mais c'est pas ça qui fait que les démocrates, là, c'est pas encore assuré leur victoire aux élections. C'est parce qu'il y a cette espèce de gauche-là qui est rendue à l'intérieur du parti. Puis t'as Nancy Pelosi qui fait des cérémonies puis des folies au Congrès. C'est pas ça qui fait que on a l'impression que l'alternative, des fois, est pas mieux que Trump.
Ouais, ben d'abord, je suis pas sûr qu'effectivement elle est beaucoup mieux que Trump. N'importe quoi est mieux que Trump. Bon.
Selon toi. Je veux dire.
Ben évidemment, selon moi, puis selon, écoute, n'importe quel critère objectif, écoute, ce que ce gars-là a laissé comme destruction de la puissance américaine derrière lui, c'est pas possible. J'en reviens pas. J'en suis encore estomaqué. C'est comme si il s'est retiré du fauteuil qui était le leur depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Non, ouais, les alliés, allez vous faire voir. Moi, ce que j'aime, c'est un Kim Jong-un, tu sais, ce genre de gars-là, là, Bolsonaro, là, moi, je m'entends bien qu'eux autres. Des capotés, puis des racistes, puis des crackpots, puis tout ce que tu veux.
Luc, t'es négatif aujourd'hui. Là. La politique américaine, il va quand même avoir un gagnant là, en novembre l'an prochain. Alors, il va falloir qu'il y en ait un des deux qui soit président. Et il va
je vais dire quelque chose, puis ça ne veut rien dire, disons. Mais moi, mon instinct me dit qu'il va se passer de quoi dans cette campagne électorale-là qu'on n'a pas vu encore, puis je sais pas quoi.
Toi, tu penses que ça soit ni un ni l'autre, c'est ça ton point?
Ça pourrait être ni un ni l'autre. Et franchement, je vois pas vraiment le scénario, là. Mais y a-t-il quelque chose qui est pas possible aux États-Unis? Non. Alors, tout est possible aux États-Unis. Joe Biden sera pas capable, à mon avis, de se rendre au 3 novembre. Il est vraiment pas dans un état pour ça. Il va se faire détruire, réduire. Il va être humilié comme une espèce d'une carpette sur laquelle on s'essuie les pieds. Puis Trump, franchement, il y a un paquet de monde qui avait voté pour lui dans le genre « on va cleaner à swamp », puis là, ils sont tannés de cleaner à swamp parce que il n'y aurait jamais eu une swamp aussi épaisse que celle qu'on vit présentement.
Mais là, en même temps, les sondages mettent les démocrates avec une relative confortable avance, mais quand je regardais les paris à Vegas, puis les parieurs sont très, très, très majoritaires à croire que Trump va gagner. Qu'est-ce que les parieurs savent que les sondeurs savent pas? Qu'est-ce que les sondeurs savent que le monsieur, madame, tout le monde sait pas?
Ben, la chose que les parieurs savent, c'est qu'il est beaucoup trop tôt pour prévoir. Et que si tu veux vraiment faire un coup d'argent avec ton pari, c'est le temps. Parce qu'il est franchement beaucoup trop tôt. Ces sondages-là, bon, sont intéressants. Mais la fièvre électorale présidentielle n'est pas décollée aux États-Unis. Elle a été retardée par la crise du COVID. Bon, alors, la crise raciale qui a suivi, puis tout ce que tu veux. Alors, ces sondages-là, à mon avis, sont intéressants dans mesure où on voit un peu comment ça s'en va, mais c'est loin d'être définitif. Et moi-même, je ne gagerais pas encore 20$ que Trump va être battu.
Et en terminant, là, je veux que tu en parles justement de la crise, parce que là, on nous dit qu'il y a la moitié des États où c'est à peu près comme au Québec, là, où c'est en nette régression, puis c'est en voie de disparaître. Puis il y a une autre partie des États, je pense que c'est 22 États, où la pandémie est en croissance encore au moment où on se parle. On dirait qu'il y a deux États-Unis dans un présentement au niveau du coronavirus. Là.
Ben, c'est le cas. D'abord, le pays est immensément grand. Qu'il y a des climats qui diffèrent d'une place à l'autre, qu'il y a des villes, puis il y a de l'aspect rural, puis il y a tout ça. Mais la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant qu'on se parle, là, la pandémie, elle n'a pas ralenti. Elle s'est accélérée. Elle va plus vite qu'elle n'a jamais été. Sauf que sa première vague est passée sur nous autres, là, elle est rendue en Amérique latine, la première vague. Et là, c'est une hécatombe absolument incroyable. Les morts vont se compter par centaines et centaines de milliers. Et c'est en train de s'étendre en Afrique aussi. Alors, on est loin d'avoir réglé le problème. Quand on va ouvrir les frontières, puis qu'on va ouvrir les pays au tourisme normal qu'on avait autrefois, attends de voir ce qui va se passer. Attends de voir ce qui
parce
va
que
se
nous
passer.
Autres, on voit pas ça, Luc, présentement, parce qu'on regarde nos chiffres, on se dit, hey, hier, zéro mort, puis aujourd'hui, il y en a juste 7, puis là, tout baisse, il y a moins de monde dans les hôpitaux, moins de monde aux soins intensifs. Quasiment plus, on est en bas de 50 aujourd'hui, nouveau cas à grandeur du Québec. Fait qu'on a l'impression que la pandémie est finie. On est dans la dernière vague. Là. On est dans la queue de la courbe. Là,
on est dans la queue de la courbe de la première vague. La question est de savoir comment va-t-on gérer la deuxième, parce que je pense qu'il y aura une deuxième. Parce que si les gens veulent s'amuser à faire un exercice, tu prends de l'aube terrestre, là, tu mets ton doigt, là, c'est parti de Wuhan en Chine, puis tu suis. Ça passe par l'Iran, là, le Moyen-Orient. Tu vois le cours que ça suit. Les autres pays asiatiques, pouf, c'est rentré par l'Italie en Europe. Ça a frappé en France partout, ça a frappé l'Europe en entier. Pendant ce temps-là, ça s'est retrouvé aux États-Unis, puis la touche qui s'est retrouvée, pas la touche, le type de virus qui s'est retrouvé aux États-Unis, on sait qu'il venait d'Europe, il venait pas de l'Asie. Donc, c'est comme si ça a fait le tour du globe, puis à un moment donné, ça a descendu vers le sud, puis c'est rentré en Amérique latine, puis en Afrique. Ouais, alors, à l'heure actuelle, il y a plus de cas nouveaux confirmés chaque jour que jamais depuis le début de la pandémie. Ouais. Alors, vu d'ici, nous autres, on est dans une autre phase. Parce que, comme je te dis, le virus, il a voyagé, tu peux suivre son cours. Alors, il a frappé fin février en Italie, début mars en Italie, en France, en Espagne, ensuite, il a suivi. Puis ça a monté vers le nord, ça a été vers l'Angleterre où ça a été une catastrophe. Ça, pendant ce temps-là, ça a frappé en Amérique, d'abord à New York, parce que c'est une ville ultra-internationale. Alors, le virus est venu de on ne sait trop où vraiment, mais on pense qu'il est de souche européenne. Là, c'est parti vers l'Amérique latine, où t'as un fou du nom de Bolsonaro. Je pense qu'il est encore plus fou que Trump, mais je suis pas sûr, pas sûr. Mais qui a voulu dire que c'était une petite grippette, puis qu'on n'avait rien à faire avec ça. Ceux-là, présentement, ils sont rendus. Les scientifiques du monde estiment que les chiffres officiels qu'ils nous donnent sont à peu près 10 fois moindres que les vrais.
La vraie réalité.
Je dirais qu'à l'heure actuelle, juste au Brésil, il y aurait 500 000 morts.
Hey boy.
On rit plus, là. T'sais, on rit plus. Le haut du ras, il accumule les morts dans des charniers. C'est épouvantable.
On va suivre ça. On espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague, mais à t'entendre, c'est pas rassurant. Luc Lavoie, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Salut.
Bye.